Maître Karl-Alphonse, bienvenue. Je vais reprendre un peu ton parcours et puis on va pouvoir commencer quelques questions autour de l'immigration francophone pour cette semaine de l'immigration francophone au Canada. En novembre 2015, tu étais avocat et notaire exerçant au service d'aide juridique du Centre francophone de Toronto. Et dans le cadre de ton activité, tu as comparu devant divers tribunaux administratifs, devant la Cour des petites créances, la Cour fédérale du Canada. Donc c'est un milieu que tu as déjà beaucoup fréquenté, toujours autour des questions d'immigration, mais qui peuvent, pour les nouveaux arrivants, s'élargir à des questions de logement, à des questions juridiques plus vastes. Depuis 2015, ton parcours a un peu évolué. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, mon parcours a pas mal évolué depuis 2015. Comme j'étais au centre francophone pendant environ 4 ans, après, j'ai été dans la pratique privée. Et depuis lors, ma pratique était exclusivement en immigration des affaires où j'ai aidé les compagnies avec leurs différents projets d'immigration qu'ils avaient eus, soit leur aider à obtenir des permis de travail pour leurs travailleurs, en leur aider à faire des extensions de statut pour des employeurs qui sont déjà ici au Canada, les aider à obtenir la résidence permanence et aussi les aider dans les cas où il y a eu des inspections du gouvernement, les aider à répondre aux exigences des inspections. Donc oui, donc, ma pratique a été pas mal diverse parce que quand j'étais au centre francophone, j'ai vraiment exercé dans le domaine de droit des réfugiés. Par la suite, j'ai exercé dans le domaine de droit des affaires. Maintenant, je viens tout juste d'ouvrir mon cabinet et je vais mélanger les deux expériences que j'ai eues dans la pratique privée à représenter les entreprises dans leurs projets d'immigration et aussi à représenter les individus, soit dans des dossiers de réfugiés, soit dans le parrainage des membres de leur famille ou soit dans la résidence permanente ou la citoyenneté.
Effectivement, c'est deux expériences assez différentes. C'est intéressant de pouvoir les mélanger dans ta nouvelle activité, même si ça fait un moment que tu n'as plus forcément travaillé avec les réfugiés ou en tout cas les nouveaux arrivants qui s'adressaient au centre francophone. Tu saurais nous décrire une évolution des profils qui sont arrivés il y a quelques années et par rapport à ceux qui arrivent aujourd'hui d'immigration francophone?
Oh, définitivement. Quand j'étais au centre francophone, à l'époque, c'était l'époque où il y avait beaucoup des Haïtiens qui venaient des États-Unis pour venir trouver leur vie au Canada. Donc, j'ai représenté probablement plus de vingtaine de ces dossiers-là et j'ai eu pas mal de succès dans ces dossiers-là. La plupart des personnes, ce sont comme des femmes. Ils ont eu en protection à cause de leur sexe et le fait qu'il n'y avait pas de protection pour les femmes en Haïti. J'ai aussi représenté beaucoup de personnes en Afrique, en République démocratique du Congo. La plupart des cas, ce sont des cas politiques, des personnes qui exercent dans les politiques de leur pays, mais dans les partis qui sont opposés à celui du pouvoir. Donc, il y a eu beaucoup de cas de ce genre.
Ça, c'était les dossiers que tu traitais particulièrement au Centre francophone du Grand Toronto. Est-ce que tu as déjà commencé à reprendre des dossiers d'immigration individuels et non pas d'affaires ces derniers temps ou c'est
Oh
dans les jours à venir? Oui.
oui, j'ai déjà commencé. Comme aujourd'hui, j'avais comme un appel avec des clients potentiels. Un de mes clients cherchait à faire un permis d'études pour étudier ici au Canada. Il pensait aussi à s'enregistrer pour l'entrée express, qui est une des façons d'obtenir la résidence permanente. Et après cet appel, j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec un réfugié. Donc, c'est quelqu'un qui vient du Nigeria et c'est la persécution fondée sur l'orientation sexuelle.
Est-ce que tu trouves que les profils sont différents? Est-ce que ça a évolué en termes d'origine, des lieux d'immigration vers le Canada ou en termes de demandes? Est-ce que c'est moins politique justement et c'est plus des demandes de protection à titre individuel pour des identités de genre ou des identités sexuelles? Quels sont les nouveaux profils quelque part que tu observes?
Mais tu vois, comme les profils n'ont pas vraiment changé, quand j'étais au centre francophone, il y avait les profils des personnes qui venaient des pays où les règlements ne permettaient pas l'orientation sexuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Il y avait aussi des problèmes politiques. Et je sais comme présentement en Afrique, comme par exemple au Niger, il y a quand même beaucoup de problèmes en politique. Donc, j'envisage que des personnes qui peuvent venir au Canada peuvent probablement avoir un bon fondement pour une demande d'asile. Donc, selon moi, il n'y a pas eu un grand changement.
C'est important que tu suives l'actualité des pays justement francophones pour savoir quelles sont les raisons qui les poussent à quitter le territoire. Tu dois te tenir au courant de ces actualités.
Oui, tout à fait. Quand on fait l'immigration, surtout comme le droit des réfugiés, c'est important de se garder au courant de tous les pays, tout ce qui se passe à travers nous. Donc moi, comme depuis que j'ai commencé cette pratique en 2014, j'ai vraiment été comme à l'affût de toutes les nouvelles. Et je suis quelqu'un qui est très, très passionné de ce domaine de droit-là. Donc c'est quelque chose que je fais dans mon temps libre.
Et j'en profite, comme tu travailles aussi sur les affaires et avec des entreprises qui souhaitent s'installer, est-ce que ça c'est pareil? Tu sens qu'il y a une plus forte demande ou globalement c'est à peu près les mêmes dynamiques d'installation pour les affaires?
Oh oui, comme il y a une très, très grande demande ici au Canada, que ce soit des entrepreneurs qui veulent agrandir leur business ici, ou que ce soit des compagnies qui sont des grosses multinationales qui veulent transférer des employés, comme qui sont dans une des autres entités à l'extérieur du Canada au Canada. Donc ça, c'est pas mal des affaires qui sont très, très fréquentes. Une des choses qui aide le Canada, c'est vraiment l'immigration américaine, parce qu'il y a beaucoup des organismes, des compagnies qui ont une présence au Canada et aux États-Unis. Et ce qui arrive, c'est que quand certains des employés aux États-Unis ne peuvent pas prolonger leur statut aux États-Unis, le Canada, c'est l'option B parce que c'est proche des États-Unis et ça a aussi le même taux horaire. Donc, les personnes peuvent travailler, continuer à travailler dans les mêmes équipes. Donc, des fois, c'est possible de faire comme un permis de travail, comme de transfert interne entre compagnies. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent au Canada. Comme vous le savez, ça fait pas longtemps, le ministre de l'immigration avait annoncé le programme pour les employés qui avaient les H-1B aux États-Unis. Donc, ça, c'est une des options qui s'est ouverte, mais comme il y a beaucoup de demandes au Canada par rapport au permis de travail, il y a beaucoup de business.
C'est intéressant d'entendre que le Canada, finalement, c'est un plan B pour les travailleurs américains, enfin pour les travailleurs immigrés aux États-Unis, que le Canada, finalement, c'est une seconde option. Et donc, pour revenir justement sur la question des chiffres et des cibles, pour vous, ça veut dire quoi le fait d'augmenter ces cibles? Alors, il se trouve que les organismes de la francophonie en Ontario, eux, ont exprimé une vraie déception face à ces chiffres de 6%, 7 et 8% en 2026, parce que pour eux, les chiffres qui sont nécessaires pour augmenter la démographie francophone, ce serait 12%. Dans le cadre du gouvernement, le ministre de l'Immigration, Mark Miller, a dit que c'était pas réaliste et c'est pour ça qu'il a donné un objectif de 6%. Est-ce que pour vous, ça symbolise quelque chose, que ce soit en termes de pratique en tant qu'avocat, et est-ce que aussi en termes de résident à Toronto, ça raconte quelque chose d'augmenter les plafonds d'immigration francophone?
Oui, comme ça, c'est une très, très belle question. Selon moi, je pense que l'immigration a quand même fait un progrès en augmentant les plafonds. Il faut quand même prendre en considération le contexte dans lequel qu'on est. Le plafond qu'ils ont rencontré en 2022, c'est la première fois qu'ils avaient rencontré les objectifs par rapport aux minorités francophones à l'extérieur du Québec. Donc, je comprends les organismes francophones qui demandent de faire plus, d'augmenter le pourcentage à 12%, mais comme c'est difficile hein, pour le ministre de trouver un moyen d'atteindre des objectifs aussi optimistes. Selon moi, je pense que le 6% pour 2024 et ça augmente jusqu'à 8% en 2026, je pense que c'est quand même un bon compromis. Et on va voir comment ça va aller et si on va rencontrer ces objectifs. Donc, le fait qu'on a déjà rencontré les objectifs en 2022, c'était très, très, très positif. Donc, c'est vraiment voir si on peut rencontrer les futurs objectifs. C'est très, très difficile de trouver des francophones qui rencontrent tous les critères d'immigration et qui ont tous les points pour passer à travers le système d'entrée express. Et je pense que c'est là la situation qu'on a au Canada, comme trouver les francophones qui rencontrent aux critères. Et si on regarde vraiment à la loupe, les chiffres. La plupart des chiffres, comme 60% des résidents permanents qui vont venir en 2024 à 2026, vont venir de l'immigration économique. Comme il va falloir vraiment regarder si on peut trouver des francophones dans l'immigration économique, et ça, c'est un peu difficile. Mais c'est quand même des bons signes pour les francophones qui vont appliquer pour l'entrée express, parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous parlez français, et vous êtes compétitif par rapport aux autres facteurs, vous avez des bonnes chances de se faire sélectionner pour la résidence en permanente au Canada.
Ce que vous voulez dire, c'est que du coup, dans les chiffres, là, les plafonds qui ont été fixés, il faut avoir un profil d'immigrant économique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un individu d'avoir, c'est d'immigrer pour avoir un poste ici ou immigrer avec la certitude d'avoir un poste?
Donc, l'entrée express, c'est un système basé sur les points. Donc, ce n'est pas nécessaire que la personne soit déjà ici, mais si la personne est déjà ici, ça l'aide, hein, parce que les personnes qui ont déjà l'expérience canadienne, ils ont des points supplémentaires. Mais les personnes qui ne sont pas au Canada, ils peuvent quand même avoir assez de points pour être sélectionnés pour la résidence permanente. Ça va vraiment être basé sur leur âge, leur statut marital, s'ils sont mariés, pas mariés, s'ils ont des diplômes d'études. S'ils maîtrisent les langues de anglais et français, si on maîtrise les deux langues, on a plus de points. S'ils ont de la famille ici au Canada, si ils ont étudié ici au Canada, s'ils ont l'expérience de travailler au Canada. Et c'est vraiment, ils mettent tous ces points-là ensemble pour trouver comment, pour déterminer si quelqu'un va être invité à être résident permanent. Et ce qui est une amélioration des années antérieures, c'est que maintenant, l'immigration voit qu'il y a des domaines spécifiques, comme par exemple les trades, comme les métiers de construction, et ils sélectionnent des personnes dans le bassin de l'entrée express pour ces différents programmes. Donc oui, c'est ça. Donc, c'est pas seulement les personnes ici qui qualifient à l'entrée express, c'est un peu tout le monde à travers le monde.
D'accord. Merci pour cette explication. C'est toujours le système de l'entrée express, c'est toujours assez confus et c'est pas mal d'avoir un peu un éclaircissement. Merci.
C'était une entrevue avec Marine Otogali dans le cadre d'Initiative Journalisme Local pour Choc FM 105.1.